Alarm phone, hello.
Hola.
Salam alaikum.
Allô, bonjour.
Alarm phone,
c'est Alarm phone.
How are you, my friend?
Estás, amigo?
How many are you on
can you hear me?
Est-ce que vous m'entendez?
Okay, can you,
Benny, do you,
can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique à
mère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone.
Freedom, I don't meet him. Where's your freedom?
Combien de personnes êtes-vous sur le bateau?
Can you hear me?
What kind of boat are you on?
How many are you on the boat?
Keep calm, keep as calm as you can.
Okay, I call you back.
ما هو لون القارب؟
Maybe try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2024, 12 500 personnes sont mortes ou disparues en traversant.
1041 personnes par mois.
240 personnes par semaine.
34 personnes par jour.
Plusieurs milliers de personnes sont emprisonnées.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 32e épisode de Chronique amère. Une émission mensuelle où on décortique les politiques des frontières européennes, et toujours, depuis Alarm Phone. Il y a un peu plus d'un an, on vous parlait des naufrages invisibles. Ces bateaux qui disparaissent avec tous leurs passagers sans laisser de traces. Aujourd'hui, dans la continuité de cet épisode, nous voulions donner la parole à celles et ceux qui restent, les proches des disparus. Nous avertissons toujours que la situation aux frontières est dure et violente, et que certaines des histoires racontées peuvent être difficiles à entendre. C'est particulièrement le cas aujourd'hui. Il y a bien des façons de disparaître sur la route, en mer comme à terre. Bien des endroits où se retrouver emprisonné, souvent des années, sans pouvoir donner de nouvelles à l'extérieur. Il y a aussi ces corps qu'on retrouve et peine à identifier. L'autre conséquence de la disparition, c'est l'absence. C'est le vide laissé. C'est le doute de savoir si l'être cher est vivant ou mort. Alors, il y a les proches, famille, amis, aimés, qui cherchent, espèrent et attendent. Qui luttent sans relâche pour la justice et la dignité. Et puis, il y a des militants, d'Alarm Phone et d'ailleurs, qui les accompagnent dans leurs recherches et leurs combats. La disparition forcée de personnes est un crime contre l'humanité. Pour que ces récits aient toute leur place, nous avons décidé de vous les faire entendre en deux épisodes successifs, ce mois-ci et le mois prochain.
Vous peignez quoi sur la banderole?
On va faire des vagues, du désert, et après on va écrire en quatre langues. Ni oubli, ni pardon.
En ma langue, personne disparu, ça existe. Ma langue maternelle, c'est le féfé, ou un mapié, quelqu'un qui a disparu. C'est ce que ça veut dire en ma langue. Ou un mapié, ou un pomontri, quelqu'un qu'on recherche. Parce que quelqu'un qu'on recherche est différent de personne qui a disparu. Et nous, dans notre comté, généralement, on dit on recherche, parce qu'on n'est pas sûr.
C'est disparu, de faire rire. On ne l'a pas vu, il est perdu de vue. Tu sais, ici, notre langue nationale, c'est Wolof. Mais ma langue maternelle, c'est Polar. Paul, on dit disparu, on m'a dit. On m'a dit, ça veut dire disparu, on ne le voit plus.
Ok. Taïla. Taïlou, en Mauritanie, langue arabe. Talou, approchez.
Attends, tout le monde peut venir, on va commencer.
Je suis Pierre Yossa, du groupe de recherche et d'action sur les migrations GRAM. Déjà en tant qu'ancien migrant, j'ai vécu ces horreurs de disparition dans notre convoi de Arlit au Niger pour Djanet en Algérie. Nous étions passés par là et depuis Djanet, il n'y a plus de véhicule pour la Libye. Donc forcément, on devait aller à pied avec l'aide d'un guide pour traverser. Et déjà dans ce convoi, nous avons perdu des personnes en route. Même quand je suis arrivé en Libye, déjà, c'était dans ma tête quelque chose de comment faire pour que ça n'arrive plus. Et la plus grande des questions que je me posais, que feront ses parents? Est-ce qu'un jour, ses parents auront l'information? Et ça, c'est dans les années 2000. Il n'y avait même pas une structure ou des organisations ou un colloque ou bien un réseau qui faisait la recherche. Donc, du coup, c'est des personnes qui n'ont même pas pu avoir un nom ou une photo, comme le cas aujourd'hui avec tout le combat que nous menons.
Je m'appelle Aïssa, je suis appelée. En fait, parfois, on nous appelle, on nous dit qu'il y a des... On retrouve des corps sans vie. Les médecins qui travaillent là-bas, ils nous connaissent bien, c'est pour cela. Ils nous appellent directement pour nous annoncer qu'il y a un naufrage. Du coup, quand on vient, quand on voit les corps, on essaie de voir si on peut avoir contact de sa famille ou pas. Parfois, on nous donne des photos pour rechercher des personnes disparues. On fait des recherches, on lance dans les groupes de WhatsApp pour s'il y a quelqu'un qui connaît cette personne, il peut nous dire. Souvent, on a des réponses positives. Souvent, on ne trouve rien, donc il est disparu. On ne sait pas s'il est en vie ou pas.
Faire le deuil en Afrique subsaharienne, c'est enterrer quelqu'un. Personnellement, je parle de mon histoire. Ma grande sœur était décédée quand moi j'étais en aventure en Libye. Elle était décédée au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, dans ma tête, elle vit. Parce que je n'étais pas présent à l'enterrement. Parce que des images qui restent. C'est vrai, je suis retourné plusieurs fois, je suis allé sur sa tombe et tout. Au moins, je sais qu'elle est là. Le parent qui n'a même pas vu la tombe ne fera jamais le deuil. Mon enfant, dites comment ça s'est passé, parce que c'était dans l'eau. Et leur plus grosse inquiétude, c'est que son fils se retrouve dans le ventre d'un poisson. Et du coup, il y a même beaucoup de parents qui ne mangent plus le poisson. Beaucoup de parents des disparus.
Oui, le deuil, ça veut dire de rester, penser avec ton ami qui est décédé ou bien qui est disparu et de faire des prières pour lui. C'est ça pour moi. Si on parle de deuil, on parle de tristesse, il y a la colère. La colère, ça arrive parce que tu es en train de penser le fait que celui que tu connais, il est disparu comme ça. Ça a aucun trace. Ça te rend colère et ça fait mal. Parce que moi, il y a pas mal de gens que je connais. Elles viennent, elles sont à côté de moi. Chaque jour, je les vois, je les aide à avoir des médicaments et tout. On est proches comme des amis. On a entendu jusqu'à présent, avec des recherches, on ne trouve personne. Du coup, je sais que c'est elle est dedans. Ou bien il, elle est dedans. Tu fais des recherches jusqu'à fatiguer. Même au moins, si la mère a repêché le corps, on a retrouvé le corps, tu vois le corps, tu fais l'enterrement, ça c'est mieux. Mais on ne retrouve rien, on ne voit rien. Disparu comme ça, dans les mers. Ça c'est triste.
Comment faire pour que ces familles puissent faire le deuil? Et c'est très difficile en Afrique subsaharienne de faire le deuil sans avoir le corps. Mais comment faire pour qu'au moins l'état psychologique de ces personnes les permette au moins d'avoir des nuits de sommeil? Et beaucoup de personnes, ou 90% ou 99% des personnes se soulagent en parlant.
Le message que je l'ai dit parfois, bon, il faut croire en Dieu. Et du courage, puisqu'il est parti, on ne peut pas le revenir. Mais c'est dur. On ne t'a pas dit de l'oublier. Tu ne vas pas lui oublier. Mais il faut essayer de vivre et regarder d'avance.
Assalamu alaikum. Nous nous sommes encore réunis ici pour notre initiative de la commémoration. La commémoration, c'est notre promesse de ne pas oublier les gens qui ont perdu leur vie dans les frontières. Et nous continuerons à lutter contre cette frontière qui les tue.
L'homme est né libre. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Mais il doit aller avec une certaine sécurité. Et c'est les politiques qui n'arrivent pas à nous créer cette sécurité. Si les gens pouvaient partir et revenir après, les Africains ne feraient pas 2 ans en Europe sans revenir au moins 2 fois en Afrique. Ça, ce serait impossible. Mais il y a des Africains qui font 10 ans, 15 ans en Europe, sans plus jamais revenir, parce que pour lui, s'il revient, il ne repart plus. Si on donne les visas, personne ne risque sa vie dans la mer. J'appelle ça génocide, ce qui se passe à la Méditerranée. On peut l'arrêter, mais il faut créer des conditions. Il faut créer des conditions pour que les jeunes puissent être occupés.
Tu sais, en Afrique, c'est dur. Une famille avec 10 personnes, une seule personne qui travaille, tu nourris toute la maison. Tu vas dire que je vais partir en Europe pour gagner de l'argent, pour subvenir les besoins de ma mère. Mais s'il y avait de l'usine ici à côté et ils payent bien, tous les jeunes travaillent. Je pense qu'ils ne pensent pas à traverser dans les... Ils vont prendre visa normal, aller en vacances et revenir continuer leur travail.
Quand je veux suivre le journal, je me sens irrité. Parce qu'on ne présentera que ce qui est mauvais de l'Afrique. On va présenter, je dirais peut-être la Casamance qui chauffe tout le temps. On va aller présenter l'attaque qu'il y a eu à Bamako. Mais par contre, quand on nous présente l'Europe, c'est toujours des jolis endroits, très beaux, le métro. Et il faut aussi qu'on ne nous présente plus l'Europe comme le paradis sur Terre. Il faut que l'information aussi aille dans le sens de montrer des jeunes Africains qui vraiment ont pu réussir ici.
Je sais que c'est un problème, c'est une question qui est très problématique et sensible. Mais c'est important que nous ayons ces espaces pour on peut parler des personnes qui disparaissent et souvent sans trace.
Mon nom est Kaba Mahmoud, je suis guinéen. Je travaille depuis quelques années à Euromed Droit, qui est un réseau euro-méditerranéen qui intervient sur les droits humains. Je fais de la coordination d'un projet sur la question des personnes migrantes disparues et de la migration. J'étais en Tunisie et maintenant je suis actuellement en Afrique de l'Ouest. Étant donné que la question des disparus est transnationale, c'est-à-dire qu'un Guinéen qui se rend au Maroc et qui peut se rendre ensuite en Tunisie perd la vie en Méditerranée, peut être retrouvé à travers les différentes personnes qu'elle a pu rencontrer au cours de son parcours migratoire.
Je ne peux pas quitter le Sénégal avec un nom. Et au retour, je me retrouve dans des cimetières où on va juste mentionner un numéro. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous voulons parler de toutes ces questions et aussi donner la responsabilité aux gens qui doivent les prendre.
Comment se passe l'identification d'un corps? Cela dépend déjà du pays, de ce qui existe comme procédure. Et en général, dans la plupart des pays d'Afrique du Nord, par exemple, il n'y a pas de procédure officielle. Concrètement, ce qui va se passer? Une famille qui est à la recherche d'un proche décédé lors d'un naufrage. La première chose qu'elle va faire, c'est de trouver une association qui fait ce travail d'accompagnement. Une fois qu'elle aura trouvé cette association, la première chose pourrait, par exemple, de faire une déclaration au poste de police de la disparition de l'enfant ou du proche. Ensuite, la police qui reçoit cette information peut mener des actions ou pas. Et donc, à ce moment, il y a des organisations internationales comme le CICR. Le CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, qui reçoivent aussi quelquefois des demandes de recherche ou d'identification de corps.
J'aurais pu mourir comme les autres, comme mes amis et mes frères. Pourquoi eux et pas moi? Ça n'a pas été un mérite d'avoir franchi les rives, un mérite de ne pas pouvoir traverser la Méditerranée ou l'Atlantique, un mérite de ne pas avoir succombé dans la mer et dans les frontières terrestres. J'aurais pu être englouti dans des eaux profondes.
Au tout début, en Tunisie, l'identification se faisait uniquement de façon visuelle, quand le corps n'était pas en état de décomposition avancée. Maintenant, c'est différent. Étant donné qu'il y aurait eu des erreurs dans les identifications, l'État tunisien impose qu'il y ait l'ADN. Les corps qui ont été repêchés par les autorités, il y a des prélèvements d'ADN qui sont faits. Donc c'est à ce moment que le CICR peut intervenir en prélevant l'ADN de la famille en Guinée, Donc, ce qui veut dire qu'il y a un bureau du CICR en Guinée. Et faire matcher les deux, à partir de ce moment, le corps est identifié. Donc, il y a un autre processus qui est là. Est-ce qu'il faut rapatrier le corps ou il faut l'enterrer sur place? Et généralement, c'est à la charge de la famille de rapatrier. Souvent, c'est cher, donc c'est sur place.
Nous avons été confrontés à cette même réalité de vie, cette réalité de désordre global de nos pays. Nous étions souvent dans l'obligation de faire des choix aussi difficiles. Des départs forcés et sans prendre en compte ce que nous laissons derrière. Combien de familles vivent avec ce lourd fardeau?
À certains moments, il y a des avancées de la part des institutions publiques dans un pays donné, dans la recherche et l'identification des personnes. À des moments donnés, il y a des reculs importants. Quand je prends le cas de la Tunisie, avant le discours incendiaire du président tunisien, toute personne, peu importe sa situation administrative, régulière ou irrégulière, pouvait se rendre à la garde nationale, faire la déclaration d'une personne portée disparue ou d'un corps qui était là et qu'elle souhaitait identifier. Aujourd'hui, cela n'est pas possible parce que tu es criminalisé tout de suite du fait de ton statut de personne irrégulière.
Aujourd'hui, je dirige mes pensées vers toutes ces personnes qui n'ont pas pu arriver, qui sont morts ou disparus dans les frontières.
Pour certains acteurs, l'objectif, c'est de faciliter le rapatriement d'un corps retrouvé. Pour d'autres, c'est de faire justice. Donc quand une famille, elle a ces deux positions, que faire? Le corps a été identifié. À ce moment, est-ce que la famille souhaite le rapatriement du corps? Ou bien, il faudrait laisser le corps là-bas pour qu'il y ait toujours pression pour justice?
Là de la Tunisie. Je suis là parce que en 2019, j'ai vécu une grande tragédie. Donc j'ai perdu mes deux fils dans un naufrage. Hedi et Mahdi, ils étaient très jeunes, donc ils sont partis très très tôt. Je suis ici venue pour me présenter en tant qu'une mère. C'est vrai que je suis activiste, je fais partie d'une association et je suis une présidente d'une autre association, mais je veux toujours me présenter autant qu'une mère. Parce qu'un message d'une maman est plus fort qu'une activiste. En 2019, le 30 novembre 2019, ils sont partis. À ce moment-là, Hedi, il avait 23 ans et Mahdi 21 ans. Hedi, c'est mon fils aîné. Hedi, c'était mon ami, c'était mon frère. Quand je tombe malade, Hedi, il fait tout à la maison. Il me manque. Mahdi, il est très doux. Il est très, très, très doux. Même quand il parle, tu dois surveiller les lèvres parce que tu n'arrives pas à entendre ce qu'il dit. Ben, chacun, il a un caractère et les deux sont extraordinaires.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Eddie m'a dit, ils ont une chambre commune. Tu peux dire qu'ils étaient des jumeaux. Ils aimaient une seule équipe de football et ils s'habillaient, comment dirais-je, kiff-kiff. Il y en a une chanson qu'ils aimaient, et si tu n'existais pas, donc je l'écoutais toujours.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants t'endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais.
Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de force pour trouver mes fils. C'était une association italienne qui a publié les photos de mes fils et c'est eux qui ont me cherché. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé beaucoup. Elle m'a aidée pour aller voir mes fils avant l'enterrement. Mais je n'ai pas trouvé un soutien de notre État, de notre gouvernement. Ils n'ont pas voulu me donner le visa. Donc, je me sentis délaissée parce qu'en Italie, je vais le dire franchement, il y en a des gens qui enterrent sans prendre l'ADN. C'est grâce au Croix-Rouge International que j'ai pu faire ça. Quand j'ai fait l'ADN et c'était identifié, j'ai voulu bien visiter les temples et commencer les procédures et les démarches de rapatriement parce que c'est pas facile. J'ai pas pu faire le deuil. J'ai pas même trouvé le temps de pleurer tellement que je dois bouger, je dois parler avec des personnages soi-disant des supérieurs en Tunisie pour faciliter, pour chercher, pour m'aider. Mais le jour où j'ai rapatrié les corps de mes fils et ils sont devant moi, j'ai pleuré. Je ne peux pas t'expliquer. Mais c'est comme j'ai appris cette nouvelle ce moment-là. Je dois rapatrier les corps. Parce que moi, le genre de mère qui visite le tombe de son fils jour après jour. Chaque jour, je dois visiter Eddie et Mahdi, je raconte avec eux, je demande est-ce qu'ils sont fiers de leur mère. Avant de venir en Sénégal, j'ai passé une semaine. Je raconte pourquoi le voyage, pourquoi je dois voyager. Donc, non, il faut rapatrier les corps. Je dois parler avec mes fils.
Et si tu n'existais pas, ne serait qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdue. J'aurais besoin de toi.
Aujourd'hui, je suis membre d'une association italienne, Mémoire Méditerranée, et je suis fière. Vraiment, je suis fière que je n'ai pas baissé les bras. On a des institutions qui traînent les familles. Tu dois aller par là, par là. C'est du perdre du temps. Et quand tu es en train de chercher un proche, tu ne dois pas perdre du temps. Parce que si tu perds du temps, tu perds les traces. Là, je donne la force à une autre mère. Si elle est en train encore de chercher son fils et qu'elle n'a pas des nouvelles, on ne sait pas qu'il est mort ou bien. Donc, tu dois être forte pour que tu puisses continuer la recherche. Regarde, moi, j'ai perdu mes deux fils, mais je n'ai pas arrêté à travailler sur ça, à lutter contre les frontières, contre l'injustice. Mais au fond de moi, je pleure. Mais je ne dois pas pleurer devant la mère. J'attends quand je finis avec cette dame-là pour pleurer toute seule. Je te semble que je suis forte. Mais à l'intérieur, je suis totalement brisée. Mais de partager aussi, c'est bon. De partager avec quelqu'un d'autre, c'est bon pour moi. C'est tout à fait comme maintenant. Je pleure, je me sens plus bien. Tu vois ? Donc, je dois pleurer. Je dois raconter. De temps en temps, je dois raconter mon histoire. Parce que tu peux pas oublier tes fils.
Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai.
J'aime pas ce mot-là. Disparu? Non. Parce que s'il est mort, on va trouver un corps. S'il est vivant, on va trouver un indice. Malheureusement, on a un chiffre énorme pour les morts et les disparus. Les premiers responsables, c'est l'État. J'ai pas la solution. Parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un de vivre je ne sais pas où. C'est lui qui choisit où il veut vivre. Pourquoi les Européens, ils vont partout, sans visa, sans... Pourquoi les Arabes ou les autres pays, ils doivent un dossier comme ça, et après tu auras un refus. Il n'y a pas un motif clair pour le refus. Donc, nos enfants aussi, ils ont des rêves, ils veulent découvrir un autre monde, des autres gens. C'est pas un crime, enfin, c'est... Je sais pas comment le dire. Des fois, quand... Moi, je fais le tour de presque plusieurs pays. Et les rêves de mes fils, un seul pays, c'était la France. Parce que mon fils aîné, il a une fiancée en France. C'est injuste. Dans le normal, c'est mes fils qui doivent visiter ma tombe. C'est injuste. Donc la lutte continue.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un second épisode sur les personnes disparues. En attendant, nous avons comme à notre habitude envie de terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées pour celles et ceux qui disparaissent sur la route, qui perdent la vie aux frontières de l'Europe, en mer et ailleurs. Nous ne vous oublions pas. Des pensées de solidarité pour toutes les familles et les proches qui les cherchent inlassablement. Des pensées de solidarité pour toutes les personnes enfermées dans des camps, des prisons, des centres de rétention, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Europe. Des pensées de solidarité avec toutes les Palestiniens et Palestiniennes victimes de génocide. Et soutien à celles qui sont criminalisées pour oser les dénoncer. Des pensées de solidarité pour tous les prisonniers Kanak, enfermés pour avoir combattu l'État colonial français. Merci à Aïcha, Jalila, Mahmoud et Pierre, pour leurs précieux témoignages. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles et ceux qui ont participé, qui ont prêté leur voix, monté, fait de retour et aussi à celles et ceux qui vont la diffuser. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM, celui de Canal Sud et celui de Radio Dio. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et poing levé.